matière, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Qu'il
illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qu'il attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Ça, c'est une prière. C'est une prière qu'on vous fait. Assois-toi, c'est bon, Alain. C'est pas, merci. C'est bon. David qui s'est écrit un jour. Il dit, ce que je désire, Seigneur, c'est d'habiter dans ta maison pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Il dit que c'est tout ce qu'il désire, ça. Lui, le roi, celui que Dieu a placé sur un trône, un très grand trône, le trône du Christ, puisque c'est sur ce trône qu'est assis le Christ aujourd'hui. Tout ce qu'il désire, c'est ça. Parce qu'il a fait une petite expérience. Il dit, quand une armée se campait contre moi, quand se campera contre moi, quand une armée se soulèvera contre moi, je n'aurai
aucune crainte.
Aucune crainte. Parce qu'il a une confiance totale en son Dieu. Et c'est pour ça. Or, ce qui lui donne cette confiance-là, c'est son envie de s'approcher de la maison, de rester dans la maison de Dieu, d'abandonner son palais, d'abandonner tout le luxe du palais pour savourer un autre luxe, un luxe au-dessus du luxe du palais. Et c'est ce que Paul nous dit aujourd'hui. Paul te pose la question de savoir si tu pouvais, est-ce que tu sais quelle gloire te réserve l'Éternel Dieu quand il t'appelle. C'est bien ça, hein? Qu'est-ce qu'il te réserve comme gloire? Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Quand l'Éternel Dieu vous appelle, ça n'a pas de sens pour beaucoup de gens. Vous savez, je connais des chrétiens, des gens qui sont chrétiens, qui vont à l'église tous les jours. Puis un jour, leur enfant a décidé d'être prêtre. Ils étaient choqués. Quand je dis choqué, c'était désagréable pour eux. Ils ont essayé par tous les moyens de dissuader le fils. Le fils a tenu bon. Le fils a tenu bon. Il est devenu prêtre. Ils étaient allés à son ordination. Un peu malgré eux, bien sûr. N'ont pas entendu l'appel que le fils a eu, la joie qu'il a, parce que leur fils avait fait de grandes études, c'était des gens assez riches, donc c'est pas pour l'argent, mais qu'ils aient un enfant ingénieur, s'il était ingénieur, et qui Jean, hein, c'est un grand ingénieur. Il a fait ci, il a fait ça. C'est pas la même chose que de dire qu'il est prêtre. On oubliera ses diplômes tout de suite. Il y a des prêtres qui sont médecins, il y a des prêtres qui sont, je sais pas, pharmaciens, qui sont, etc., qui ont fait de grandes études. Mais on oublie toujours leur diplôme. On ne pense qu'à eux en tant que prêtre. Mais chacun d'eux sait la joie qu'il a en répondant à l'appel du Christ. Parce que c'est Christ qui appelle. On ne peut pas prendre sa vie et la donner comme ça au service de Dieu si Dieu ne vous appelle pas. Parce que ceux qui le font par hasard, ceux qui passent par là par hasard et qui entendent de la bonne musique, un beau cantique grégorien, ou qui passent là et qui entendent de la bonne musique pour dire « Je vais voir ce qui se passe à Palace de Victoire. » Qui vient là, c'est très beau, il danse bien, hein. Je vais y aller aussi. Ceux-là resteront le temps que leur joie monte un peu, et quand l'heure viendra, vous les verrez partir. Ne vous en faites pas pour eux, ne vous occupez pas d'eux. Dieu ne les a point appelés à son service. C'est un honneur, c'est une faveur que Dieu fait aux gens. C'est un grand honneur lorsque on vous met, on vous donne des responsabilités au sein d'une congrégation religieuse. Il y a un frisson qui s'est emparé de moi à la mort de mon père. Papa Oshofa a appelé mon petit frère, c'est le troisième de la famille, à le remplacer. Quand j'ai appris ça, j'étais triste. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que mon petit frère devient chargé de paroisse que j'étais triste. Il me s'est demandé, il me s'est dit, mais pourquoi pas moi? Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Pourquoi pas moi? Il veut m'appeler aussi. Parce que je ne sais pas que très tôt, j'ai compris ce que c'est que le service de Dieu. Et j'aimais, mais je ne me préparais pas à cela. Lequel d'entre vous, c'est lorsqu'il s'est fait baptiser, celui qui est chargé de paroisse aujourd'hui, celui qui l'a été, ceux qui sont sacristains, lequel d'entre vous sait qu'un jour il sera ça, dans cette église? Aucun de vous ne le sait. Mais l'appel vous avait été lancé et vous n'avez pas dévié d'un seul état du chemin qui vous a été tracé. Vous avez connu sûrement des difficultés. Lorsque vous atteignez ce degré-là, vous devez être sûr d'une chose. C'est Christ qui vous a appelé. Et maintenant, se préparer. Parce que le bonheur qui vous réserve, vous ne pouvez pas le savoir. Job s'est écrié un jour. Il a dit, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Personne ne peut voir Dieu et mourir. Et vivre. Il a dit, mes yeux t'ont vu. Seigneur, qu'est-ce qu'il a vu? Ou bien, il a connu la mort et qu'il est revenu à la vie. En ce cas, en ce moment-là, il a vu le Père. Il a approché de lui. Ou bien alors, il a vu sa magnificence, sa beauté, sa bonté. C'est de sa souffrance qu'il a dit cela. Lui qui était au sommet de la gloire pour ce qui est des biens matériels a périclité. Satan a demandé son corps. L'Éternel lui a livré le corps. Il en a fait ce qu'il veut. Mais il a tenu bon. Job a tenu bon. Et Dieu ne l'a pas lâché. On doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire Satan. Si vous lisez le livre de Job en son début, il a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir. Il dit, as-tu remarqué, mon serviteur, Il dit une chose très importante. Il n'y a pas plus juste que lui, plus tel que lui sur la terre. Donc, il était jugé bon, déjà. Dieu l'avait déjà mis à part. N'est-ce pas? Dieu te dit que tu es intègre. Est-ce qu'il mentira? Est-ce qu'il dira ça pour te flatter? Il n'a pas dit ça à Job pour le flatter. Non. Il a dit à Satan, cet homme-là est intègre. Satan rit de sa barbe. Il est intègre. Mon œil, devait-il dire. On verra bien. Livre-le-moi. Et j'en ferai ce que je veux. Mais celui que Dieu a jugé intègre, celui-là n'a connu jusque-là que la gloire de Dieu. Il a connu que le bonheur qui vient de Dieu. Il était immensément riche. On n'a pas trouvé de péché à lui reprocher. On n'a pas trouvé de choses à lui reprocher. Qui est-il? Si ce n'était pas l'expression de Dieu lui-même. Si ce n'était pas l'expression de Dieu lui-même qui était en lui. Pour qu'il soit resté intègre. On a connu d'autres personnes aussi riches que lui. L'un d'eux s'appelle David. On a vu ce qu'il a fait. Je n'ai pas dit que la gloire de Dieu a quitté David. Non, pas du tout. Mais on a vu ce qu'il a fait. On n'a pas dit de cela de Job. Parce que Job a commencé par voir la gloire de Dieu déjà. Ce que Dieu te réserve demain, ce qu'il ne te donne pas ici, et que tu auras demain, Dieu l'a donné déjà à Job, petitement peut-être, parce que ce qu'il attend est plus grand. Et regardez un peu le pauvre Lazare. Regardez-le, ce pauvre homme. Quand le riche passait, Lazare était transparent. Lazare était transparent. Ben oui, c'est vrai, non? Il était transparent, il ne le voyait même pas. Il ne disait même pas à son boy à la maison, va donner de la nourriture à cet imbécile qui m'embête dehors là. Il ne disait même pas ça. Nous sommes d'accord? Et à la fin, quand tous se sont retrouvés à un endroit, à l'endroit final, c'est celui qui était transparent, qui est devenu comme une luciole maintenant. Tout le monde dans l'obscurité, même dans son obscurité là-bas, il voyait. Vous voyez les lucioles, vous voyez comment ça scintille. Il dit, est-ce que papa Abraham, tu ne peux pas demander à ce... Il croit toujours que c'est toujours son boy, là, même là-haut. Qu'il vienne, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il mette sur ma langue, qu'il brûle. Il dit, quand tu étais sur terre, tu as eu tous les avantages que tu voulais. Maintenant, lui, c'est maintenant qu'il recorde. La gloire de Dieu attend ceux qui ont fait preuve d'intégrité dans leur vie. Mais l'intégrité ne suffit pas. Vous savez, il y a des moments où je me pose la question de savoir si Job a existé. Hein. Je me pose cette question-là. Oui, la Bible a parlé de Job, oui. Je me pose cette question-là. C'est comme Messie-Sédec. Le roi de Salle, on ne lui a trouvé aucune faute. Hein. Et tout le monde convient que c'est l'expression du Christ déjà. Mais ceux à qui la gloire est réservée, les saints dont parle Paul aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous qui étions menteurs, qui serons menteurs, qui serons des voyous, qui serons adultères, qui serons voleurs, nous qui avons été voleurs. Mais cette gloire-là aussi nous est réservée. Vous devez trouver ça bizarre non, auprès de Dieu. D'un côté, c'est un homme intègre. Un homme intègre qui donne sa gloire pour dire que cette gloire est réservée aux hommes intègres. De l'autre, le voleur sur la croix qui a passé sa vie à faire le mal a héritera de cette gloire-là. Et pourquoi? Dieu est-il injuste? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voyez, il y a ces deux extrémités-là que nous avons. Deux personnes qui vont hériter de la gloire de Dieu. Je ne parle pas de Lazare, qui n'a été que pauvre. Spirituellement, on ne parle pas de lui. Il n'a été que pauvre. Pour dire que le riche mettra du temps. Il lui sera très difficile d'hériter du royaume des cieux. D'accord. Mais on a eu un homme intègre qui a été glorifié, Job. Et le voleur qui a passé sa vie à voler, puisqu'il va à la mort parce qu'il a volé, n'a pas eu le temps de faire le bien. Et pourtant, il a fait le bien. Et pourquoi? Il verra la gloire de Dieu, puisque c'est le Fils qui lui a promis. Il lui a dit ce que ça dit, que la place où je vais, c'est à cette place-là tu seras. Il lui a réservé une place au ciel. Quand on vous appelle des saints, ce que Paul appelle des saints, des gens comme toi et moi, c'est nous qui avons voué une dévotion à Christ. C'est nous qui avons accepté d'adorer Christ. C'est ça le voleur sur la croix. Tout ce qu'il a eu à faire. Il dit, mais arrête de te moquer de lui. Lui, nous au moins on sait pourquoi on est là. On sait. Et lui, il est l'innocence même. Là, c'est comme s'il se prosternait devant lui. C'est comme s'il reconnaissait sa divinité. Parce qu'il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui ne pêche point. Il l'a trouvé sans faute. Ça veut dire qu'il a mis au rang de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez d'autre? Qu'est-ce que vous demandez d'autre aux gens? Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, il n'y a pas 10 000 chemins. C'est pour ça que je n'aime pas dire aux gens, venir là et réciter aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Pardon, s'il y a des musulmans parmi nous, je ne sais pas, non, on ne verra pas. Monsieur, vous n'êtes pas musulman, je peux dire ce que je pense. Lorsque j'ouvre le Coran et que je le lis, au nom de Dieu miséricordieux, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je me pose la question de savoir quel est l'homme à qui les gens parlent. À qui ça parle? Dites-moi. Dites-moi à qui ça parle. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne fait que te répéter ce que tu ne dois pas faire. On te demande d'avoir la force toi-même de faire. Parce que tu es livré à toi comme ça, tu vas à ta perte. Tu vas à ta perte. Vous rappelez l'histoire de la Samaritaine? Quand Jésus était à un puits, en train de puiser de l'eau, Jésus lui a demandé un peu d'eau. Il dit, bon, pourquoi? Quelle est cette histoire-là? Toi, tu es juif. Pourquoi tu me demandes à moi, Samaritaine? Les Samaritains sont haïs. Je crois qu'il paraît que c'est les descendants de Lot. Enfin, c'est les descendants de Lot. Ils sont haïs. C'est des gens qui ont été... Quand les autres ont été déportés, ils sont restés avec les païens. Ils se sont mélangés à eux. Ils sont devenus un peuple maudit par les juifs. Mais c'est de cette dame-là que Jésus s'est approché. Il demandait de l'eau. La dame lui a dit, mais si tu pouvais savoir, qui te demande l'eau, d'abord, si tu pouvais savoir, si je te donnais moi de l'eau, Si tu pourrais savoir ce que ça te ferait, cette eau-là, l'eau de vie. Elle dit, qui es-tu? Tu es prophète. Il dit, fais venir ton mari, etc. Qui est ton mari? Es-tu marié? Elle a dit non. Il dit oui, tu dis vrai, parce que tout simplement, tu en as eu combien?
Cinq.
C'est combien?
C'est
sept. Bon. Et que celui qui est chez toi aujourd'hui n'est pas ton mari. Ah, elle a dit, c'est quoi ça? Mais c'est un prophète, tu es un prophète. Ou tu es le Christ. Il dit, là, tu l'as dit. Mais là, ça suffit. Ça suffit. Et puis elle est allée maintenant vers ses compatriotes pour leur dire ceci. J'ai rencontré un homme, un grand prophète. Il dit qu'il est le Christ. D'accord, mais il a révélé, il a parlé de ma vie. Mais elle a adoré. Mais c'est fini. Quand elle a reconnu, quand il a dit, je suis, il dit oui, je le suis. Mais c'est terminé. À partir du moment où elle a reconnu ça, vous voyez, ce peuple-là haït. C'est pour ça que Pierre et ses compagnons n'étaient pas contents du tout. Parce qu'il était en train de parler à une Samaritaine. Mais Dieu, le Christ est venu pour pouvoir changer aussi cette dame-là. Pour que la gloire dont parle Paul aujourd'hui, elle puisse en bénéficier. Elle qui était vomie par ses pères, que Dieu a méprisé aussi à un moment donné. Vous savez, on dit chez moi que lorsque tu prends ta main pour frapper ton enfant, quelques minutes après, c'est avec cette même main-là que tu vas la tirer vers toi et le serrer contre toi. Dieu l'a fait et a transformé cette dame-là. Dieu, le Christ a fait deux peuples se rencontrer, deux mondes différents se rencontrer et s'unir autour de lui. Et cette dame samaritaine a reçu les bénédictions du Christ. Cette dame samaritaine héritera du royaume des cieux. Si vous pouvez savoir cela, lorsque vous prêchez, je vous en prie, c'est tout ce que j'ai dit depuis que je suis parti au Bénin, j'ai prêché trois fois. Et j'ai dit cela. Lorsque vous prêchez et que vous passez votre temps à réciter les 10 commandements aux gens, à parler de tout ce qu'ils ont de mauvais, sans leur dire l'espérance qu'ils ont demain. Quelle est cette espérance-là? Le royaume des cieux, ce que c'est? Quelle vie il y a là-bas? En prenant par exemple l'exemple de Lazare et du riche, pour qu'ils sachent ce qui les attend. Il faut que les hommes sachent qu'après la vie, il y a ce que nous appelons la mort, et qu'après la mort, il y a la vie. Et cette vie-là, elle est différente pour certains et les autres. Elle est de deux sortes. Soit c'est dans les souffrances éternelles, soit c'est dans la joie éternelle. Dieu mérite que l'on adore. Quand il a créé le jardin d'Éden, rappelez-vous cette belle phrase de la Bible. On dit que Dieu planta un jardin. Mais quelque temps avant, il a juste dit que la lumière soit, et la lumière soit a été. N'est-ce pas? Il a dit que ceci soit et cela a été. Mais pour nourrir Adam et Ève, je crois qu'il est descendu sur terre. Il dit qu'il planta un jardin. Quand on dit plante, s'il avait créé le jardin par le Verbe, la Bible dirait. Aucune version de la Bible ne dit qu'il a créé ce jardin-là par le Verbe. Il a fait un travail de jardinier, de cultivateur. Il a labouré pour toi et moi. Ne crois pas que le fait que Satan t'ait induit dans la faute, t'ait amené la faute vers toi, fera oublier ce que tu es pour Dieu. Si lui, il a planté un jardin pour toi, s'il est descendu pour pouvoir arroser, il a fait couler de l'eau, il a tout dessiné, les arbres étaient là, il a tout fait pour que tu sois à ton... Je veux dire, Adam et Ève soient à leur aise. Et celui-là, quelle méchanceté vous allez lui reprocher. Qu'il frappe comme mon papa m'a frappé. Et qu'il m'attire après cela est logique. Cela est logique. Cela est logique. Il veut tout simplement montrer à Satan que le bonheur que lui connaissait, parce qu'il était l'ange de lumière, il était le chef des anges, que le bonheur qu'il connaissait, ce bonheur-là, sera donné aux hommes. Satan ne peut pas être content. C'est pour ça qu'il cherchera par tous les moyens à vous induire en erreur. Mais vous tenez bon. Et vous qui prêchez, prêchez aux hommes le royaume des cieux. Prêchez le royaume de Dieu aux hommes et aux femmes autour de vous. Dites-leur que ce royaume-là est proche. Que ce royaume-là existe. Qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là, c'est dans la joie éternelle ou dans des souffrances éternelles. Et lorsque c'est dans la joie éternelle, c'est la magnificence que ce qu'a vu David. Que veut voir David en vivant dans le temple de Dieu. C'est cette magnificence-là, au-delà de cette magnificence-là, que vous verrez. Vous savez, j'ai été, je crois, je ne sais plus dans quelle ville, je suis rentré dans un temple, dans une église catholique. Quand je suis rentré dedans, ma tête a augmenté de volume. C'était beau. C'était beau, très beau. Et malgré vous, vous êtes obligé de vous incliner. Ça, c'est une gloire terrestre, déjà de Dieu. Et ce que vous allez voir dans les cieux, alors, ce qui est réservé aux saints, c'est ça. Les saints doivent le savoir. Le saint que tu es, le saint que je suis, la sainte que tu es, la sainte que je suis, la sainte que tu es, le saint que je suis. Ce qui nous est réservé dans les cieux, c'est cela. C'est une beauté sans fin. C'est, Paul a été clair là-dessus. Il a dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous imaginez un peu qui est en train de juger un ange? Vous imaginez un peu Henri II en train de juger un ange? Lui, moi, que les gens ont méprisé ici, là, toi qui est traité de ci ou de ça. Paul dit que tu jugeras les anges. Qui es-tu? Ça, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire-là t'est réservée. Que ce premier jeudi du mois soit le jeudi du mois d'une grande prise de conscience pour chacun de nous.
Amen.
Que l'espérance soit là, devant nous.
Amen.
Nous allons hériter du royaume des cieux.
Amen.
Il n'y a pas de condition à cela. Lorsque tu penses au voleur sur la croix, tu te dis qu'il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est que Christ t'accepte. Et puis, pour terminer vraiment, lorsque le jugement sera prononcé, qu'est-ce que nous dit le livre de Révélation? Que le livre sera ouvert, qu'on appellera les noms. Est-ce qu'on a dit qu'on jugera les justes? Non. Mais il y aura un jugement, mais c'est pour les autres. Parce qu'on prononcera une sentence contre eux. Mais contre ceux qui croient en Dieu, il n'y a pas de jugement. Parce que déjà, leur nom sera inscrit dans le livre de vie.
Amen.
Est-ce que ton nom sera inscrit dans le livre de vie?
Oui.
Comment?
Oui.
Il ne faut pas dire j'espère. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Lorsque tu crois vraiment en lui, qu'il est le Père Tout-Puissant, eh bien, ton nom sera inscrit dans le livre.
Amen.
Bonne année et que la bénédiction te
bénisse. Amen. Amen.